grand titre de ce 9 juillet, le Premier ministre australien Malcolm Turnbull est à Paris pour des entretiens avec le président français Emmanuel Macron. Tous les pays membres du G20, sauf les États-Unis, soutiennent l'accord de Paris sur le climat. Et puis Lilian Calmejean remporte la 8e étape du Tour de France. Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull est à Paris après le sommet du G20 à Hambourg. Il a eu des entretiens avec le président français Emmanuel Macron où ils ont parlé de terrorisme, de commerce et du contrat sur la construction des sous-marins en Australie-Méridionale. Malcolm Turnbull parle de liens très étroits avec la France.
So it is a very tight bond and it is recognized that the future submarine project, the project office of which I'll be opening tomorrow in Cherbourg, represents the latest development in this remarkable story of partnership. This is the largest and most ambitious military project in Australia's history, and it is a matter of great moment, historical moment.
Voilà le Premier ministre australien à Paris. Le sommet du G20 a pris fin à Hambourg, où le communiqué final prend acte de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris. On écoute la chancelière allemande Angela Merkel.
Lorsqu'il n'y a pas de consensus, les divergences doivent apparaître dans le communiqué final. On y trouve d'un côté la position américaine après le retrait regrettable des États-Unis, ou en tout cas l'annonce de leur retrait de l'accord de Paris sur le climat. Le communiqué présente donc clairement la position américaine. Mais je suis heureuse que les autres chefs d'État et de gouvernement du G20 confirment leur soutien à l'accord de Paris et qu'ils s'engagent à le mettre en œuvre aussi vite que possible. Nous avons par ailleurs adopté des mesures sur le climat et l'énergie, baptisées « Plan d'action de Hambourg ».
Voilà la chancelière allemande. Analyse de ce sommet du G20 avec Mounia Daoudi pour Radio France Internationale.
Le G20 a parallèlement pris acte de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris et de l'engagement des 19 autres pays à soutenir ce texte dont le côté irréversible est officiellement reconnu. Il était important qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'unité des 19, c'est chose faite. En revanche, Washington est tout de même parvenu à faire intégrer une phrase validant sa volonté de faire cavalier seul et surtout de développer un usage plus propre des énergies fossiles, une concession à Donald Trump qui a permis aux 20 pays d'adopter une déclaration commune. Autre sujet de discorde, mais sur lequel les dirigeants du G20 sont parvenus à un compromis, la question du protectionnisme. Après des heures de négociations où chaque mot a soigneusement été pesé, la déclaration finale condamne explicitement le protectionnisme, mais donne parallèlement à un pays le droit à se défendre. Le texte reconnaît en effet le droit à l'usage d'instruments de défense commerciale, une première dans l'histoire du G20 et une victoire pour l'administration Trump. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à apprécier cette évolution sémantique. Plusieurs pays européens, au premier rang desquels la France, souhaitent pouvoir se défendre plus efficacement contre des pratiques de dumping, face par exemple à la Chine.
Mounia Daoudi pour RFI. Le président français espère que le président américain changera d'avis sur le climat. La France organisera un sommet sur le climat à Paris en décembre prochain. On écoute le président Emmanuel Macron.
Le 12 décembre prochain, 2 ans après l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, je réunirai donc un sommet afin de prendre de nouvelles actions pour le climat, notamment sur le plan de financement. Et donc la France abritera un sommet d'étape 2 ans après l'accord de Paris, qui permettra, en particulier sur les financements prévus par le dit accord, eh bien de mobiliser financements privés et publics qui s'étaient engagés lors de l'accord de Paris, mais aussi d'identifier les projets qui permettront justement, qui pourront pardon, ainsi être financés et qui manifesteront une avancée concrète de ce que la France a permis de faire advenir, mais qui est un engagement international qui aujourd'hui mobilise 195, peut-être demain 194 États. Je pense qu'en la matière, il est indispensable d'avancer sur ce sujet de manière concrète, et c'est la cohérence même du G20 qui est à l'œuvre.
Voilà, c'était le président français Emmanuel Macron. L'organisation Greenpeace salue la décision du G20 et les signataires de l'accord sur le climat, signalant que la décision est irréversible malgré la sortie des États-Unis. Jennifer Morgan, la directrice de Greenpeace, salue toutes les initiatives de Angela Merkel.
I have hopes that we can bring a next U.S. administration back into the Paris Agreement, but the Trump administration I have no hope of. The thing that's important to know is that Trump does not represent America on climate change. Thousands of cities, companies, governors, they all support Paris, and they're going to move forward in implementing it.
Voilà la directrice de l'organisation Greenpeace. Le président russe Vladimir Poutine déclare avoir établi un dialogue avec son homologue américain pour mieux travailler ensemble.
The TV Trump is very different from the real Trump. He's very concrete, he deals well with his interlocutor, he analyzes quite quickly and responds to questions that are posed or that arise during discussion.
Vladimir Poutine, le président russe, pense aussi que le président américain accepte son point de vue que Moscou n'a rien fait pour s'ingérer dans les élections présidentielles américaines de 2016. Le président américain Donald Trump déclare qu'il faut peut-être du temps pour freiner les ambitions nucléaires de la Corée du Nord. Il a rencontré le président chinois Xi Jinping au sommet du G20 pour discuter de cette question nord-coréenne.
I appreciate the things that you have done relative to the very substantial problem that we all face in North Korea, a problem that something has to be done about. And I'm sure that whether it's on trade or whether it's on North Korea or any of the many things that we'll be discussing, we will come to a successful conclusion.
Voilà le président américain. Le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, déclare que les violences perpétrées en relation aux manifestations contre le sommet du G20 sont l'œuvre des casseurs et des voyous. Plus de 200 policiers ont été blessés pendant 2 jours de pillages, d'incendies criminels et d'attaques physiques. On écoute Thomas de Maizière.
The brutality yesterday and the day before yesterday by leftist, violent thugs is incredible and outrageous. These are criminals and not protesters.
Voilà le ministre allemand de l'Intérieur. Le président turc Tayyip Erdogan s'est adressé au sommet du G20 sur la question des journalistes turcs arrêtés par son gouvernement, sur les 40 000 personnes arrêtées depuis juillet dernier après le coup d'État manqué. Il déclare que la justice s'en occupe. Et puis l'opposition turque a réussi à rallier Ankara à Istanbul à pied en plein état d'urgence pour dénoncer l'injustice du régime Recep Erdogan. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont donc attendu ce dimanche à Istanbul pour accueillir le leader du parti de l'opposition kémaliste. Reportage Alexandre Billette pour RFI.
Après 24 jours de marche, 450 kilomètres de route et entouré de près de 50 000 sympathisants, le chef du CHP Kemal Kılıçdaroğlu est arrivé à Istanbul avant de tenir ce soir un grand rassemblement pour la justice pour lequel les organisateurs prévoient la venue de plus d'un million de personnes, du jamais vu pour un rassemblement de l'opposition depuis le putsch raté de juillet dernier. La manifestation se déroulera sous très haute sécurité alors que des menaces d'attentats ont été évoquées contre les marcheurs, tout comme d'éventuels provocateurs qui pourraient vouloir s'en prendre aux manifestants. Kemal Kılıçdaroğlu semble donc avoir remporté son pari, celui de dénoncer le pouvoir qu'il qualifie d'arbitraire et d'autoritaire. Et si la foule est au rendez-vous ce soir, il pourra revendiquer le statut d'opposant en chef face à Recep Tayyip Erdogan. Mais il reste quand même à voir comment l'opposition entend tirer profit de cette grande marche et si elle est prête à poursuivre dans la rue sa campagne contre le pouvoir turc.
Voilà le reportage d'Alexandre Billette pour RFI. En France, la reconstruction du Parti socialiste après les déroutes électorales de la présidentielle et des élections législatives, le PS s'est choisi une nouvelle direction. Précision, Julien Chavannes pour RFI.
À quoi ça sert de mettre 14 personnes qui vont défendre la même politique ?
La déception et la colère de Gérard Filoche, cette figure de l'aile gauche du parti, regrette la grande place laissée aux anciens proches de François Hollande. C'est aussi pour cette raison que l'ancien député frondeur Pascal Cherki a voté contre cette direction. Il a l'impression de voir l'UMP au lendemain de l'échec de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2012.
Le fantôme de Sarkozy rôdait dans les couloirs de l'UMP à l'extérieur. Là, j'ai l'impression de voir le fantôme de François Hollande rôder à l'extérieur du Parti socialiste. On doit parler échecs du quinquennat. Le Parti socialiste s'est retrouvé hors jeu après l'élection présidentielle et l'événement d'aujourd'hui le maintient durablement hors jeu.
Leurs voix ont en tout cas été en partie entendues. Jean-Christophe Cambadélis a accepté d'ajouter le député Régis Juanico. En échange, ce proche de Benoît Hamon a dû signer un engagement de loyauté. Plus question pour Jean-Christophe Cambadélis d'avoir des frondeurs.
Nous ne voulons plus les 18 sons de cloche tels que nous les avons connus dans la période précédente. Donc c'est vrai que cette direction est beaucoup plus homogène que les directions qui ont existé jusqu'à présent.
La direction collégiale va désormais travailler sur une feuille de route destinée à réanimer le PS. Elle sera présentée à la fin de l'été au sein du parti avant le vote des militants en septembre.
Voilà Julien Chavannes pour RFI. Des milliers de résidents évacués de leurs maisons dans la province de British Columbia au Canada après des feux de forêt. Plus de 180 feux brûlés hier selon les pompiers après un temps sec et chaud. L'état d'urgence est en vigueur, une première depuis 14 ans dans cette province. Trisha Chavez a été évacuée et elle croit avoir tout perdu chez elle.
I just wanted to get there and see what's going on for myself rather than being on the highway telling me that all my things are gone, that I, you know, my life work, I have a business, I've got a service truck that I can't pick up, so just really just gonna have to let everything go because, you know, what can I do?
Voilà la résidente de British Columbia au Canada, Trisha Chavez. Un mot de sport, deuxième victoire française dans le Tour de France pour la 8e étape hier. Et on reviendra largement sur ce Tour de France dans notre magazine des sports tout à l'heure. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 17 degrés, Adélaïde 15, Melbourne 14, Hobart 13, Canberra 11, Sydney 18, Brisbane 21. Darwin 31 et à Alice Springs, maximal de 16 degrés. Un rappel des grands titres de ce 9 juillet, le Premier ministre australien Malcolm Turnbull est à Paris pour des entretiens avec le président français Emmanuel Macron. Tous les pays membres du G20, sauf les États-Unis, soutiennent l'accord de Paris sur le climat. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.
Aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench